Les secrets du patrimoine de Belley.
Une émission qui vous invite à découvrir les richesses culturelles de cette ville.
Par les élèves de seconde du lycée du Bugey de Belley. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Yafet et je suis accompagné de ma camarade Jenaba.
Bonjour et bienvenue dans les secrets du patrimoine de Belley. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons vous parler du patrimoine de la ville de Belley.
Nous souhaitons en parler pour vous donner des connaissances sur l'histoire de Belley ainsi que de ses monuments.
Nos camarades ont visité avec une guide quelques lieux emblématiques de Belley. D'autres sont allés rencontrer des habitants et certains ont découvert l'atelier d'une sculptrice. Les secrets du patrimoine de Belley.
Un atelier Radio B.
Pour ceux et celles qui se demandent ce qu'est le patrimoine culturel, nous allons vous éclairer.
Le patrimoine culturel, c'est l'ensemble des biens, matériels tout comme immatériels, qui ont une importance artistique et historique, privée ou publique. Généralement, ces biens sont préservés, restaurés et sauvegardés. Ils peuvent être publics ou privés.
Et vous, que connaissez-vous comme monument ici à Belley? Les avez-vous visités? Et connaissez-vous réellement leur histoire?
Nos reporters Jade, Émilie et Lulu sont allés vous poser ces questions dans les rues de Belley.
Est-ce que vous avez visité un monument à Belley?
Oui, quelques-uns. La basilique, j'ai bien aimé son architecture, c'était super chouette.
Alors, j'ai visité la cathédrale. J'ai aimé qu'elle soit refaite, qu'elle soit toute remise à neuf. J'ai aimé sa grandeur, j'ai aimé ses vitraux. Je l'ai trouvée très majestueuse. Alors, le palais épiscopal, qui abrite la bibliothèque. Il y a le conservatoire aussi, qui est très joli. La mairie aussi, du coup, est très jolie aussi. Bon, il y a l'ancien hôpital, aussi, qui est... où j'ai pu travailler, qui est magnifique, vu de l'extérieur.
Moi, j'aime bien l'ensemble de Belley, la disposition géographique, cette belle grande rue, la place des terreaux, bien sûr, qui est magnifique, la cathédrale, la présence religieuse de Belley, qui a laissé des traces partout. C'est une ville historique. On ne connaît pas assez Belley, et voilà.
Monument aux morts. J'allais à l'école. J'emmenais l'école sur le pont noir. J'emmenais mes petites filles.
L'église, vous ne l'avez jamais...
Si.
Le palais épiscopal.
Oui.
Plusieurs. J'ai visité plusieurs fois le palais épiscopal, la cathédrale, la maison de Brillat-Savarin, l'intégrale, l'entreprise Cario, le lycée du Bugey où il y a le monastère, là, le couvent.
Les maristes.
Des maristes, le conservatoire.
Oui, j'ai dû y rentrer une fois dans l'église.
L'église.
C'est la médiathèque.
Vous avez jamais visité l'église?
Si, une fois,
on était allé, mais en dehors, pas à l'intérieur.
La cathédrale, oui. Moi, j'y étais allé la voir aussi en 6e, on était allé voir la rénovation, donc ça, c'était intéressant.
Sur Belley, bah, t'as le palais épiscopal, la cathédrale, le conservatoire de musique là, à côté de la mairie.
T'as bien aimé la cathédrale?
Oui, elle est jolie. Elle est jolie, puis la façade a été refaite il n'y a pas longtemps.
Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Belley. Elle est vraiment très jolie, il y a beaucoup de jolies fresques à l'intérieur. Et j'ai aussi eu l'occasion d'aller dans les jardins du palais épiscopal. Et vraiment, c'est très sympa à faire.
Ah bah moi, c'est un peu la même chose. J'ai déjà visité la cathédrale et je suis aussi allé dans les jardins. Et puis sinon, le cinéma, si on peut considérer ça comme un monument.
Nous remercions nos camarades ainsi que les habitants de Belley d'avoir répondu à leurs questions.
Quels secrets cachent les monuments que l'on croise tous les jours dans Belley? Pour le savoir, nos reporters Lila, Jade, Florie, Marie ainsi que ma camarade Jenaba, ici présente, sont allés faire un reportage avec les participations d'une guide à l'office de tourisme.
On écoute le reportage sur la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Belley.
Bonjour, je m'appelle Lila.
Bonjour, je m'appelle Yafet.
Bonjour, je m'appelle Jenaba.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Elle se trouve à côté du palais épiscopal, place Popiolesco, dans la rue Saint-Jean, à Belley.
Elle est construite sur l'emplacement d'une ancienne cathédrale datant de 722.
Antoine Chenavard, architecte, en reconstruit une au milieu du 19e siècle, après avoir subi de nombreux aléas durant la Révolution française.
Lui-même se fixait un défi, faire en sorte que cette cathédrale, en pierre, avec un clocher allant jusqu'à 40 mètres de haut, soit un parfait exemple du style néo-gothique.
Pour en apprendre plus sur ce monument emblématique de Belley, Florence, guide pour l'office de tourisme Bugey Sud, répond à nos questions.
D'où vient le nom de la cathédrale?
Le nom Saint-Jean-Baptiste vient en fait du saint, qui s'appelle Saint-Jean, et qu'on a appelé Baptiste, puisque du coup, c'est celui qui, dans la religion catholique et dans la Bible, baptise Jésus-Christ. Et donc, en fait, le nom Saint-Jean-Baptiste vient du nom qui lui a été donné par le diocèse, qui a choisi, en fait, de donner cette cathédrale à la protection du saint. Et donc ça, c'est depuis la mise en place de l'évêché du Belley qui s'est mis en place au 6e siècle après Jésus-Christ. Et déjà à cette période-là, on sait que la cathédrale, elle était protégée par Saint Jean-Baptiste. Donc voilà, ça lui vient de l'histoire avec le saint.
D'ailleurs, la cathédrale Saint Jean-Baptiste est une co-cathédrale. Qu'est-ce qu'une co-cathédrale ?
Alors, si on veut être tout à fait exact, c'est la co-cathédrale de Bourg-en-Bresse qui est co-cathédrale. La cathédrale de Belley reste la première cathédrale. Alors, qu'est-ce que c'est une co-cathédrale ? C'est quand l'évêché, qui est au départ l'évêché de Belley, est amené, en fait, dans les années 1980, à être agrandi au niveau de son territoire. Et à partir de 1982, de mémoire, eh bien, l'évêché de Belley, c'est plus seulement l'évêché de Belley, c'est l'évêché de Belley-Ars, c'est-à-dire qu'ils prennent d'autres communes paroissiales, enfin, d'autres paroisses. Et donc, à ce moment-là, eh bien, l'évêque, il va décider, pour des raisons de praticité, tout simplement, de se déplacer à Bourg-en-Bresse. Et donc, à Bourg-en-Bresse, eh bien, l'évêque va s'installer au niveau d'un palais qui va devenir un palais épiscopal, donc un logement, et puis d'une cathédrale. Mais la cathédrale de Belley, c'est la première cathédrale qui a été nommée pour l'évêché. Donc, elle reste dans sa position première de cathédrale. Et à Bourg-en-Bresse, c'est la co-cathédrale qui a été nommée parce que l'évêque est maintenant présent à Bourg-en-Bresse.
Pourquoi se situe-t-elle à cet endroit ?
Alors, au niveau de Belley, en fait, le quartier épiscopal, que ce soit aujourd'hui le palais épiscopal ou la cathédrale, sont situés très certainement sur les lieux des premières occupations de population de la ville de Belley, dont on a parlé au niveau du palais épiscopal, qui sont donc les occupations antiques, avec l'installation des Gaulois et puis des Romains, enfin, donc une population gallo-romaine. Et on sait, en fait, que c'est à cet endroit-là, ou à l'endroit même de la cathédrale d'aujourd'hui, que très certainement, sous les Romains, il y avait des temples. Il y a eu des colonnes, en fait, hein, des fondations de temples qui ont été retrouvées au niveau de la cathédrale. Et donc, en fait, c'est très certainement là où les premiers peuples se sont installés à Belley. Et donc, le quartier épiscopal a toujours été le centre de développement de la ville de Belley. Et c'est pour ça que la cathédrale a été placée ici ensuite.
La cathédrale, cette cathédrale est de style néogothique. Mais qu'est-ce que le style néogothique et pourquoi la cathédrale en est un bon exemple ?
Alors, le style néogothique, c'est un style d'architecture religieux, principalement, qui date du milieu du 19e siècle. La cathédrale de Belley, elle est néogothique parce qu'elle date, pour une partie, de cette époque-là. Ce qui est intéressant dans la cathédrale de Belley, c'est qu'elle a plusieurs types d'architecture, puisque la cathédrale que vous avez en face de vous, elle n'a pas était totalement construite au XIXe siècle. Il y a une partie qui a été construite au XIIe siècle, une autre au XVe siècle, et puis elle a été agrandie au XIXe suite à un tremblement de terre qui s'est déroulé dans l'année 1823. Et donc la cathédrale, on a consolidé les parties qui avaient été abîmées par le tremblement de terre, et Monseigneur de Vie, qui était l'évêque en place à cette époque-là, a demandé son agrandissement. Et au milieu du XIXe siècle, l'architecture religieuse qui est très à la mode, eh bien, c'est le gothique. Enfin, on utilise les symboles décoratifs du gothique, mais vu qu'on est au XIXe siècle et plus au XVe, on appelle ça du néo-gothique, du nouveau gothique. Et donc, c'est pour ça que c'est la cathédrale. Enfin, c'est pour ça qu'on a construit la cathédrale comme ça. Et c'en est un bon exemple parce qu'on retrouve tous les symboles architecturaux du néo-gothique qui se faisaient beaucoup au milieu du XIXe siècle. Les symboles sont principalement au niveau de la façade principale de la cathédrale, au niveau du porche, où on retrouve tous les arcs brisés, les trèfles à quatre feuilles ou à trois feuilles, qui sont vraiment des symboles caractéristiques de l'architecture néo-gothique.
Cet édifice a subi la Révolution française. Y a-t-il eu des conséquences ?
Oui, tout à fait. On sait que, enfin, les archives nous décrivent que la cathédrale auparavant était munie de deux clochers, qui était sur les côtés du transept. Donc cette partie, la cathédrale, la partie que l'on voit aujourd'hui et par laquelle on entre principalement, n'était pas du tout construite à la Révolution française, puisque c'est la partie de l'édifice qui est construite au milieu du XIXe siècle. À la Révolution française, il n'y a que ce qui est aujourd'hui en fait l'arrière de la cathédrale qui est construite, et devant ces deux piliers de transept, on a des clochers qui, eux, vont être détruits à la Révolution française. Et on sait aussi qu'il y a eu quelques dommages à l'intérieur de la cathédrale, notamment au niveau des statues qui représentent des saints, puisque du coup, la Révolution française, à cette époque-là, on a tendance à détruire tout ce qui a un lien trop étroit avec la religion. Et donc, on détruit généralement les clochers et les saints et les statues.
Merci Florence pour toutes ces informations. Maintenant, on vous suit pour la visite de la cathédrale de Belley.
Donc on se trouve maintenant face à la façade principale de la cathédrale, donc au niveau du porche et du clocher-porche. On retrouve justement la statue de Saint Jean-Baptiste qui tient dans sa main droite une coquille Saint-Jacques, puisque du coup c'est le symbole qui est utilisé généralement pour représenter Saint Jean-Baptiste, puisque c'est cet objet-là dont il se serait servi pour pour baptiser le Christ. Et puis on retrouve tous les éléments d'une architecture néo-gothique, donc ce qu'on appelle un arc trilobé, qui est ce trèfle à trois feuilles qui va décorer toute la partie de la cathédrale qui se situe au-dessus de la statue. Et puis, pour la petite anecdote, on trouve aussi la signature, en tout cas le fait que l'architecte Chenavard, qui est l'architecte qui a été choisi au milieu du 19e siècle pour agrandir la cathédrale, eh bien, il a laissé son nom dans un coin à gauche, avec les chiffres romains qui, en fait, sont les chiffres de la date de fin de construction de la cathédrale. Donc, 1853. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie principale de l'entrée de l'édifice. Voilà, donc quand on entre dans la cathédrale, on est généralement surpris par sa grandeur et surtout par sa longueur. C'est expliqué en fait par le fait que la cathédrale de Belley, elle a la particularité d'avoir un chœur, donc la partie située derrière l'autel, qui est presque aussi grande que la nef. Alors c'est lié en fait au fait que pendant très longtemps, jusqu'au milieu du 19e siècle, la seule partie qui existait de la cathédrale, c'était la partie du chœur. Qui servait également de nef. Et quand on a construit la partie qui est la nef actuelle au 19e siècle, on a construit une nef très grande. Et donc, en fait, on a deux parties de cathédrale qui sont presque équivalentes au niveau de leur longueur. Et donc, on est sur un édifice qui est très, très grand. Et évidemment, qui est très, très haut aussi, puisqu'on a des voûtes qui montent à plusieurs mètres de hauteur. Et l'autre caractéristique de la cathédrale, c'est la variété de ses décors, notamment au niveau des peintures et des vitraux qui sont mis en place au niveau des chapelles de la cathédrale, notamment au niveau des chapelles derrière le chœur. Donc, voilà. Et puis l'autre élément à signaler dans la cathédrale, c'est le grand orgue, qui est un orgue qui a été installé ici au milieu du 19e siècle, qui est un orgue, donc un instrument de musique, qui est un orgue dû au plus grand facteur d'orgue du 19e siècle qui s'appelait Cavaillé-Coll, et c'est un orgue qui est encore aujourd'hui en état de fonctionnement, et il y a une organiste titulaire à la cathédrale qui vient jouer de l'orgue pour les différentes cérémonies.
On poursuit avec la découverte du palais épiscopal.
Bonjour, je m'appelle Jade.
Bonjour, je m'appelle Marie, et nous allons vous présenter le palais épiscopal, puis nous allons interviewer Florence, guide touristique sur Belley.
Tout d'abord, un palais épiscopal est la demeure d'un évêque, généralement à proximité d'une cathédrale.
Le palais épiscopal de Belley fut construit au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, ce n'est plus un bâtiment religieux, mais il abrite une médiathèque et les locaux de la Société Savante Le Bugey, une association qui s'intéresse à l'ancienne province du Bugey.
C'est aussi un lieu de manifestations diverses, de conférences, d'assemblées générales et d'auditions pour le conservatoire de Belley. Le palais épiscopal de Belley a été classé monument historique en 1932.
Le bâtiment renferme une cour intérieure qui accueille certains événements estivaux, un jardin et des vestiges gallo-romains.
Nous allons poser à présent des questions à Florence.
Qui a créé le palais épiscopal de Belley ?
Alors, celui que vous avez en face de vous, il date du milieu du XVIIIe siècle. C'est Monseigneur Courtois de Quincey, qui est l'évêque à cette époque-là, qui demande la construction de ce palais épiscopal. Donc, c'est une architecture du siècle des Lumières, puisqu'on est en plein milieu du XVIIIe, donc une architecture assez sobre. Mais c'est intéressant de noter que ce n'est pas le premier palais épiscopal de Belley. Le premier palais épiscopal de Belley, très certainement, il est construit à partir du XIe-XIIe siècle. Et il n'a pas du tout l'apparence qu'a le palais épiscopal aujourd'hui.
Comment peut-on décrire l'architecture de ce bâtiment ?
Donc c'est une architecture du siècle des Lumières. C'est une architecture qui se veut très sobre, donc c'est-à-dire qu'on retrouve peu de décoration sur la façade. C'est uniquement, ça c'est caractéristique de Belley et du Bugey et des bâtiments assez importants dans la ville. On retrouve tout le temps autour des fenêtres un encadrement en pierre de taille. Donc vous pouvez voir que toutes les fenêtres sont soulignées en fait par des gros blocs de pierre qui les entourent. Ça c'est caractéristique de la ville de Belley, donc c'est ce qui va venir un petit peu décorer principalement la façade du bâtiment. Et puis, l'autre décoration qui est présente, c'est le fronton triangulaire qui se situe au niveau de la façade principale quand on est au niveau de la cour. Il y a un autre fronton à l'arrière au niveau du parc Jean-Pierre Camus. Et donc, c'est les deux seules choses qui vont venir décorer la façade. Et donc, c'est vraiment caractéristique de cette architecture, c'est-à-dire qu'on a peu de décoration, en fait.
Quelle est l'histoire de ce bâtiment ?
Alors c'est une histoire finalement assez récente puisque c'est un bâtiment qui date du milieu du 18e, comme je l'ai déjà dit. Et en fait, le propre d'un palais épiscopal, c'est d'être une résidence pour l'évêque. Donc c'est un bâtiment qui a servi à la fois d'appartement pour l'évêque et pour les personnes qu'il recevait, de lieu de réception, voilà. Et donc ça pendant toute la durée en fait de son histoire en tant que palais épiscopal. Et depuis le milieu du 20e siècle, c'est un bâtiment qui est racheté par la ville et qui est maintenant un lieu plutôt culturel.
Quels sont les personnages importants qui ont demeuré ici ?
Enfin, ce sont tous les évêques qui en fait ont eu leur fonction au sein du palais épiscopal à partir du milieu du 18e siècle, pardon. Donc le premier c'est Monseigneur Cortois de Quincey. Et puis après, il va y avoir Monseigneur de Vie qui va être partie prenante de la reconstruction de la cathédrale. Et puis voilà, tous les évêques. Et puis ensuite, c'est un bâtiment qui pendant les deux guerres mondiale a servi pour le ministère des armées, donc voilà, il y a eu aussi une histoire par rapport à ça.
Pourquoi la médiathèque est installée dans le palais épiscopal ?
C'est un choix municipal de la ville, puisque du coup c'est la ville qui rachète le bâtiment en 1978, qui va le restaurer et qui ensuite choisit de faire de ce lieu qui était quand même assez connu des Belaisans, hein, c'est vraiment un lieu de rendez-vous aussi le palais épiscopal, et puis c'est là où il y a des animations qui ont lieu l'été, et bien du coup d'en faire un lieu culturel, donc la médiathèque avait toute sa place au niveau du palais épiscopal et le rez-de-chaussée, les premiers étages accueillent encore aujourd'hui soit des conférences, soit des expositions. Et c'est aussi le lieu où il y a parfois des rendus de travaux scolaires. Il y a les écoles qui des fois se mettent en place au niveau des expositions faites par les élèves. Donc voilà, ça a vraiment été le choix de la ville d'en faire un lieu vraiment culturel. Et donc la médiathèque prend place ici aujourd'hui.
Quelles sont les manifestations les plus importantes qui se déroulent dans ce palais ?
Alors il y en a plusieurs, il y a tout le programme qui est mis en place par la ville de Belley, notamment les estivales où généralement il y a des concerts ou en tout cas des manifestations culturelles et qui ont lieu l'été et qui sont mises en place par la municipalité. Et parfois la municipalité choisit aussi participe aux journées européennes du patrimoine et donc de faire visiter le palais épiscopal de manière un petit peu plus ouverte que d'habitude, puisque en dehors de la médiathèque c'est normalement un site fermé au public. Et donc parfois durant les journées du patrimoine il y a soit des conférences, soit des visites guidées qui sont organisées du palais épiscopal. Donc voilà, c'est les grands événements auxquels la ville participe.
Et maintenant, on vous suit pour la visite du palais épiscopal.
Alors, au niveau du palais épiscopal, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes à voir et à souligner. Ici, on se trouve du côté droit du palais, enfin sur la partie droite de la façade, directement à côté de la cathédrale. Et pour les personnes qui se promènent, vous pouvez remarquer qu'il y a des traits qui ont été dessinés sur cette façade. Donc un trait en forme de triangle et puis d'autres traits en forme de fenêtre. Et en fait, ça date de la restauration du palais épiscopal au milieu du XXe siècle. La ville a choisi de faire ces traits-là pour venir en fait expliquer au grand public, enfin en tout cas montrer au public que auparavant il y avait un bâtiment qui existait sur le côté du palais épiscopal et qui était directement relié à la cathédrale. C'était une sorte de couloir en fait. Donc c'est pour ça que la forme du triangle signifie là où l'emplacement du toit. En fait, et puis les autres petits traits signifient les ouvertures. Et en fait, c'est un bâtiment qui a été construit par un des évêques de la ville de Belley pour pouvoir lui permettre d'accéder directement à la cathédrale de manière couverte, sans avoir besoin, de sortir du palais épiscopal pour ensuite rejoindre la cathédrale pour aller faire les cérémonies. Donc ça lui permettait d'être à l'abri de la pluie si jamais il pleuvait, et puis peut-être d'être moins sollicité par la population. Et c'est un bâtiment qui a été détruit en 1906. Voilà, donc pendant très longtemps, on ne pouvait pas circuler entre la cathédrale et le palais épiscopal du côté droit comme on le fait aujourd'hui, puisque c'était un espace qui était totalement comblé par un bâtiment supplémentaire. Alors on se trouve maintenant à l'arrière du palais épiscopal, au niveau du parc qu'on appelle le parc Jean-Pierre Camus. On donne directement à l'entrée de la médiathèque par l'ouverture qui se situe en rez-de-jardin. Et cette partie-là du palais, elle est intéressante au niveau du fronton, puisque le fronton, en fait, représente les armoiries de l'évêque qui a demandé la construction du palais, donc Monseigneur Cortois de Quincey. Et au-delà des symboles qui représentent, en fait, son, sa charge épiscopale, donc la charge religieuse, on retrouve en fait la couronne et l'aigle sur le fronton, puisque ce sont deux symboles du Saint-Empire romain germanique, et ça vient parler en fait du pouvoir supplémentaire qui avait été donné à l'évêque à partir du XIe siècle pour contrer en fait les seigneurs de la maison de Savoie. Les seigneurs de la maison de Savoie sont les seigneurs civils au niveau du pouvoir qui vont avoir la main mise, on va dire, sur Belley et le Bugey. Et ils ont donc beaucoup de pouvoir. Et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, au XIe siècle, il va charger l'évêque d'un pouvoir supplémentaire qui est le pouvoir de prince, pour pouvoir justement venir contrer ces seigneurs de la maison de Savoie. Et c'est pour ça que sur le blason, on retrouve les deux symboles d'une charge princière avec la couronne et l'aigle étant l'animal symbole du Saint-Empire romain germanique, pour venir justement rappeler qu'à partir du XIe siècle, à Belley, il n'y a plus seulement des évêques tout seuls, mais ils sont également princes-évêques. Et donc, ils ont gagné plus de puissance et plus de pouvoir sur la cité épiscopale de la ville de Belley grâce à ce titre. Donc ça, c'est la première chose au niveau du palais épiscopal. Et au niveau du parc, c'est intéressant de voir les traces qui relèvent de la période antique qui s'est déroulée à Belley. Donc notamment une colonne et puis les pierres tombales qui sont sur la droite du parc quand on vient depuis la cour du palais épiscopal, qui sont donc des traces eh bien, de la période antique et de la période gallo-romaine qui a vu en fait le développement et la construction, la construction plutôt, et le développement après de la ville de Belley par les Romains.
Merci Florence pour nous avoir fait découvrir le palais épiscopal de Belley.
Et un autre monument de Belley, la maison de Bria-Savarin.
Bonjour, je m'appelle Florie. Aujourd'hui, nous nous rendons à la maison de Jean-Anthelme Bria-Savarin, un auteur culinaire et gastronome né en 1755 à Belley. Durant sa vie, il a participé à la Constituante, la première Assemblée nationale. Il a été élu député des États généraux en 1789 et maire de Belley en 1793. Il a également, à la fin de sa vie, en 1825, publié un livre anonymement appelé « Physiologie du goût ». Un an plus tard, il décède à Paris. Nous allons revenir sur sa vie et visiter la maison où il a vécu à Belley. Pour cela, nous sommes en compagnie de Florence, guide à l'Office de tourisme Bugey Sud. Pour commencer, quelques questions.
Pourquoi Bria-Savarin est une figure de la ville de Belley ?
Alors, c'est en effet un personnage emblématique. Je pense qu'il est notamment connu parce qu'il a écrit un livre qui a été, qui a connu un grand succès à partir du milieu du 19e siècle. Et donc, il a parlé, en fait, dans son ouvrage de Belley et du Bugey. Et c'est pour ça qu'il a aussi réussi à faire connaître son territoire. Et donc, du coup, eh bien, c'est pour ça aussi qu'il est devenu l'emblème de Belley.
À quel moment de sa vie a-t-il vécu dans cette maison ?
Alors, il est né ici, en fait. Il est né dans la partie qui donne sur la rue, dans la partie de la maison qui donne sur la rue, en 1755. Sa famille était installée là depuis quelques années. Il est l'aîné de 8 frères et sœurs. Et du coup, il s'installe... sa famille habite déjà ici, lors de sa naissance. Il va y rester à Belley durant toutes ses premières études de jeunesse au Collège Lamartine. Et ensuite, il va faire ses études à Dijon. Et c'est à ce moment-là qui quittera cette maison, mais il y reviendra assez fréquemment, puisque dès qu'il il devient avocat, il vient s'installer dans cette maison pour faire son cabinet. Donc en fait, il revient régulièrement à Belley jusqu'en 1793, où il est obligé de s'exiler en Amérique.
Pourquoi s'est-il tourné vers la gastronomie après avoir passé la moitié de sa vie dans la politique ?
C'est une bonne question auquel il aurait pu certainement lui répondre. je pense que Bria-Savarin était ce qu'on appelle aujourd'hui un bon vivant. Et donc, il a toujours été, dès son plus jeune âge, je pense, attiré par la bonne nourriture, etc. Et il s'est donc rapproché, en fait, à la fin de sa vie, de cette passion-là pour la gastronomie. Et vu que c'était un homme très curieux et très passionné aussi, il a décidé d'écrire sur ce sujet-là. On considère que le livre de Bria-Savarin est celui qui a lancé la mode, en fait, de la gastronomie. Et c'est un livre qui apparaît aussi, en fait, au milieu du 19e siècle, où on commence à se voir développer les restaurants. Et du coup, on commence à aller véritablement dans un lieu pour déjeuner et ensuite repartir de ce lieu. Ce qui n'est pas habituel à son époque, c'est-à-dire qu'auparavant, on allait dans une auberge et c'est de là que vient l'expression « qui dort dîne ». Je pense que vous connaissez cette expression, puisque en fait, auparavant, on allait dans une auberge pour demander à y passer la nuit et il y avait le couvert qui était compris aussi. Mais c'était vraiment lors des grands voyages où il fallait dormir en même temps que manger. Et à partir des années 1820, c'est les restaurants qui se développent où du coup, eh bien, on va vraiment dans un lieu pour y manger et ensuite en repartir. Et donc, je pense que c'est vraiment lié à la mode qui se développe de la gastronomie aussi à cette époque-là.
Sa maison est-elle un lieu d'exposition ?
Non, pas du tout. La maison d'aujourd'hui à Belay, qui est donc au numéro 62 de la Grande Rue, est une maison privée. Ce sont des appartements. Donc, on peut éventuellement entrer dans la cour dans laquelle... on se trouve aujourd'hui pour la regarder, hein, pour un petit peu voir l'architecture, mais sinon c'est un établissement privé. Il n'y a pas du tout de lien avec Brillat-Savarin aujourd'hui qui est fait au niveau de la maison, à part le nom en fait.
De quoi parle son livre intitulé « Physiologie du goût » ?
Alors en fait c'est un traité gastronomique, donc c'est pas du tout un livre de cuisine comme les gens ont tendance à le penser. C'est un livre qui va étudier ce qu'on appelle la mécanique du goût. Et donc chaque chapitre, qui chez Brillat-Savarin ne sont pas des chapitres, ce sont des méditations, eh bien il va parler en détail de ce qu'est le goût. Donc le salé, le sucré, l'amertume, les acides, etc. Et donc c'est un vrai, enfin c'est un traité, c'est-à-dire qu'il va étudier en détail comment marche le goût et ce qui en découle en fait, bah forcément nos sensations, notre plaisir à table, etc. Et donc du coup, voilà, c'est pas un livre de recettes, mais c'est finalement un livre plutôt scientifique. D'ailleurs, il le destinait à la société de son époque et aux personnes qui avaient l'occasion de lire des livres comme ceci, donc des gens plutôt cultivés, on va dire, qui s'intéressaient à ce sujet-là. Alors, donc, on se trouve ici dans la cour de la maison natale de Brillat-Savarin, hein, donc, qui, je vous le disais, est située au 62 Grande Rue. Donc, quand on se place au niveau du milieu de la cour, il faut regarder la façade qui donne sur la rue pour avoir vraiment devant soi l'immeuble qui a été occupé par la famille de Brillat-Savarin. C'est une maison qui a été reconstruite après le grand incendie qui touche Belay en 1385. Et c'est une maison qu'on va appeler d'architecture renaissance, puisqu'elle est construite au milieu du XIVe siècle, début du XVe. Et donc on retrouve une architecture caractéristique de cette période historique, hein, de la Renaissance. Donc vous retrouvez notamment les successions de galeries avec des arcades. Un escalier à vis qui s'enroule dans une tour qui est là, une tour octogonale assez engagée dans le mur. Donc on la voit pas beaucoup, mais on arrive à la distinguer. Et puis un puits. Et ça, ce sont trois éléments de décoration qu'on retrouve beaucoup dans Belay sur des maisons qui sont situées majoritairement dans la Grande Rue et qui sont donc des maisons d'époque Renaissance. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle au niveau de la décoration, nous, la trilogie belaisanne. Donc il y a trois éléments dans Belay qui viennent parler de cette architecture. Et c'est caractéristique des cours aussi que vous pouvez voir en Italie notamment, ou au cœur du Vieux Lyon, hein, qui sont des immeubles Renaissance aussi.
Merci Florence, guide à l'Office de tourisme Bugey Sud, pour cette visite et pour avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Maintenant, nous allons passer au quiz que Molly, Chloé et Eline vous ont préparé.
Bonjour, nous sommes Chloé,
Eline et Molly.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire de Belay et de son patrimoine, puis nous vous ferons un quiz pour vérifier vos connaissances sur la ville.
Au 7e siècle, Belay est la capitale historique de la province du Bugey qui s'étend jusqu'au Mont du Chat et aux Gorges de Chaille. Pendant les premiers siècles du Moyen-Âge, Belay, comme le Bugey, passe du royaume en royaume selon des conquêtes, des échanges ou des partages. Mais d'où vient son nom ?
Le nom de Belay est lié à la déesse Bellone, une déesse romaine de la guerre, ou au guerrier Bellinus.
Est-ce qu'il y avait des personnages célèbres qui ont vécu à Belay ?
Parmi les personnages célèbres qui ont vécu à Belay, devant Alphonse de Lamartine, il était pensionnaire au collège de Père de la Foi, mieux connu sous le nom de l'institution Lamartine. Il y a aussi Jean-Claude Anthelm Récamier, un médecin à l'Hôtel Dieu. En 1799, il devient un des plus grands chirurgiens de son temps.
Et pour finir, Jean Anthelm Brillat-Savarin, qui a créé Physiologie du goût. Il s'agit à la fois d'un livre de gastronomie et d'un traité sur la manière de bien vivre.
Maintenant, on va passer au quiz pour vérifier vos connaissances.
Alors, est-ce que vous connaissez bien Belay ?
Première question. Qu'est-ce que c'est les épigyriennes de Belay ? Réponse A, un festival gastronomique. Réponse B, une organisation pour la protection des animaux. Ou réponse C, un musée des lettres. C'était la réponse A. Les épicuriennes de Belley sont une manifestation gastronomique organisée chaque année depuis 1986 par la ville de Belley sur un thème particulier. Deuxième question. Que représente la Louve passante ? Réponse A, la liberté après la guerre. Réponse B, la déesse grecque de la guerre. Ou réponse C, la verdure.
La bonne réponse est la B. Le projet de la Louve, symbole présent sur les armoiries de la ville, est né en 1980, sculpté par Colzette Sonzoni. L'emblème de la ville et la Louve se rapportant à Bellone, déesse romaine de la guerre, représentée par cet animal. Troisième question. En quoi est faite la Louve passante ? Réponse A, en fer. Réponse B, en bronze. Réponse C, en plastique. Ou réponse D, en or.
C'était la réponse B. Le bronze d'une épaisseur de 5 mm, coulé par le fondeur lyonnais Chapuis. La sculpture pèse 100 kg et mesure 86 cm de hauteur pour 30 cm de large et 25 cm du museau à la queue. Une copie de la Louve passante a été réalisée fin 2011, qui a été scellée à l'angle de la rue Lamartine et de la Grande Rue, tandis qu'après quelques mésaventures, l'original a été placé en lieu sûr.
Quatrième question. Quel écrivain a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » ? Réponse A, Lamartine. Réponse B, Balzac. Ou réponse C, Brillat Savarin.
C'est la réponse C. Jean Anthème Brillat Savarin, né à Belley en 1755. Il écrit juste avant sa mort un ouvrage qui aura un grand succès. Son nom, Physiologie de goût, c'est dans cette œuvre qu'il écrit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Son livre a notamment inspiré Balzac. Cinquième et dernière question. Que peut-on trouver aujourd'hui dans le palais épiscopal à Belley ? Réponse A, l'office de tourisme. Réponse B, la mairie. Réponse C, la médiathèque. Ou réponse D, le lycée du Bugey.
Réponse C, construit au XVIIIe siècle, le palais épiscopal abritait l'évêque. En 1978, il devient propriété de la ville de Belley. Depuis, c'est un bâtiment à vocation culturelle qui abrite notamment la médiathèque de Belley.
Alors, vous avez tous 5 sur 5 ?
On espère que vous avez appris de nouvelles anecdotes sur la ville de Belley.
Voilà, j'espère que vous avez réussi ce quiz. Maintenant, nous allons parler de l'atelier sculpture.
Le patrimoine de Belley, c'est aussi ses artistes actuels, comme l'atelier sculpture de Mireille Bell, que nos camarades Luna, Lilo et Pauline sont allés visiter pour en savoir davantage sur son travail.
Bonjour, je m'appelle Pauline.
Bonjour, je m'appelle Lilou.
Bonjour, je m'appelle Luna.
Aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer Mireille Bell, une sculptrice de Belley d'origine belge.
Nous avons donc préparé des questions pour interviewer cette artiste.
En arrivant dans le jardin, il y avait plusieurs de ses sculptures.
Nous avons eu la chance d'être plongés directement dans l'univers de l'artiste.
Mireille nous a expliqué que les sculptures pouvaient être fabriquées de différents matériaux.
Pour chaque sculpture, le temps de fabrication est différent.
Et enfin, selon les matériaux utilisés, la température varie.
Si le matériau utilisé est cuit à différentes températures, les couleurs peuvent aussi changer.
Maintenant, on écoute l'interview de Mireille Bell, sculptrice à Belley.
Pourquoi avez-vous voulu être sculptrice ?
Alors en fait, je pense que c'est le truc qu'on ne choisit pas. On ne décide pas un jour d'être sculpteur, on peut décider d'autres métiers, mais j'ai l'impression que je fais ce que j'ai à faire en fait.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Je fais ce métier, uniquement ce métier, depuis 2009. Mais j'étais déjà installée comme artiste avant, depuis 1995. Et entre-temps, je travaillais à côté. Donc, je travaillais comme éducatrice spécialisée. Et les 14 dernières années, je travaillais uniquement en atelier d'expression, donc peinture-sculpture, avec des personnes qui sortaient d'hôpital psychiatrique.
Pouvez-vous nous décrire comment vous faites une sculpture ?
Ah ben, ça dépend de quelle sculpture, puisque je travaille plusieurs matériaux. Donc je travaille à la fois la terre, la résine, le bronze, le bois, la neige, la glace, le sable aussi dans les matériaux éphémères. Après, souvent quand je pars sur une sculpture, j'ai une idée. Donc je pense à un thème, ça peut être une chanson que j'ai entendue ou voilà, un texte qui m'a inspirée. Et après, je commence, je dessine pas avant. Je commence par exemple dans la terre, je commence directement dans la terre et en fait ça se transforme au fur et à mesure.
Combien de temps cela vous prend à peu près pour une sculpture ?
Alors ça dépend. Sur une sculpture en terre, je travaille à peu près entre 2 et 3 mois. Sur une sculpture en résine, je travaille à peu près 1 an.
Et est-ce que vous vendez vos sculptures ?
Ah bah oui, parce que c'est mon métier, donc si je ne les vends pas, je n'ai pas de revenus. Donc oui, l'idée c'est de les vendre. Donc Je fais des expositions un peu partout en France et aussi parfois à l'étranger pour vendre mes sculptures.
Merci à Mireille Bell pour avoir répondu à nos questions.
Dans le jardin de Mireille Bell, une sculpture a retenu notre attention.
C'était trois grenouilles, les bras et les jambes écartées. On avait l'impression qu'elles volaient dans les airs.
On a donc demandé à Mireille Bell de nous en dire plus.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire cette sculpture ?
Cette sculpture, elle s'appelle « Les fragiles sentinelles ». Au départ, j'avais fait une petite sculpture d'une grenouille qui saute, qui s'appelle le saut, et avec laquelle j'ai gagné une bourse nationale. Donc j'étais très contente parce que j'ai été invitée une semaine dans une fonderie pour faire ma première pièce en bronze. Voilà, on était très nombreux au départ, je crois qu'on était 260 et ils n'en prenaient que deux, donc j'étais très contente. Alors l'idée de celle-ci, je les ai faites la première fois pour les installer en Bretagne, dans une manifestation qui s'appelle Étendard. C'est des installations sur l'eau. Et je trouvais intéressant qu'elles sautent au-dessus de l'eau et qu'en même temps, quand il n'y a pas de vent, il y ait le reflet inversé des grenouilles sur l'eau. Donc j'en ai fait 7, j'en ai installé 7. C'était une belle installation, donc c'est aussi être sculpteur, ça peut être avec une combinaison de plongée et un petit radeau, aller installer des choses sur l'eau, donc c'est un peu technique. Et en fait, la grenouille, c'est un animal qui respire par la peau, et donc c'est la première qui est touchée par la pollution. Et dans mon travail, je travaille à la fois sur l'humain et aussi sur ce qu'on fait de la terre et comment on l'abîme. Donc les fragiles sentinelles, voilà. Et j'aimais bien aussi le côté qu'elle saute. La grenouille, c'est l'enfance, c'est joyeux, ça bondit, c'est pas un crapaud tout mou, c'est dynamique.
On espère que vous en avez appris plus sur l'art de la sculpture.
Vous pouvez visiter sur demande l'atelier de Mireille Bell.
Pour cela, retrouvez ses infos et son contact sur son site www.mireille-belle.org.
Merci à nos camarades et à Mireille Bell pour le temps qu'elle nous a accordé. Et le patrimoine de Belley, c'est aussi sa gastronomie. Lina a rencontré Daniel Poncier sur les épicuriennes de Belley. Il nous explique tout.
Les épicuriennes de Belley, enseignement, entretien de Belley, sont une manifestation gastronomique organisée chaque année depuis 1986 par la ville de Belley sur un thème particulier. Elle regroupe sur une journée un grand marché aux produits du terroir du Rhône-Alpes, des conférences avec les grands noms de la gastronomie, des expositions et un buffet convivial rassemblant 1500 personnes autour de la place des terreaux de Belley. Pour en parler plus en détail, on écoute Daniel Poncy, vice-président de la commission culture, patrimoine, rayonnement de la ville de Belley. Bonjour Monsieur Poncy.
Bonjour.
Pourquoi les épicuriennes ont-elles été créées ?
Alors, c'est une très très longue histoire, puisque cette année, nous allons être à la 35e édition des épicuriennes. L'objectif, c'était de mettre en valeur la richesse gastronomique de notre région, autour bien sûr de la personne emblématique que chaque belaisan et même bugiste connaît bien, Anthelme Bria-Savarin.
En quoi consiste cet événement ?
Alors cet événement, il a pour vocation de promouvoir tout ce qui peut concerner tout ce qui est autour de la gastronomie bugiste et un peu plus large française, puisqu'on a quand même d'énormes richesses, donc de promouvoir les restaurateurs, les viticulteurs, les producteurs de notre belle région, et donc de mettre en avant toutes ces belles professions et bien sûr le bien savoir manger.
Pourquoi le nom épicurienne ?
Alors le nom épicurienne, il a été créé, enfin pas le nom en lui-même, mais cette nouvelle appellation a été créée la saison dernière. La manifestation s'appelait jusqu'à présent les entretiens de Belley au pays de Bria-Savarin, ce qui était un tout petit peu long, peut-être maintenant au bout de 35 ans un petit peu désuet. Donc on a souhaité redonner un petit coup de renouveau à cette manifestation. Les épicuriennes, bien sûr, autour du personnage de Bria-Savarin et de l'épicure, c'est-à-dire encore une fois des plaisirs de la table et du plaisir de bien manger.
Qui gère cet événement ?
Alors, c'est exclusivement la ville de Belley qui gère cet événement, le service culture en l'occurrence. Mais bien sûr, vous devinez que nous avons sollicité largement des partenaires au niveau du département, au niveau de la région Rhône-Alpes et bien sûr d'autres partenaires privés parce que c'est une manifestation qui est très très lourde, très très importante.
Combien de temps se déroulent les épicuriennes à Belley ?
Alors cette année, les épicuriennes vont se dérouler du 4 au 7 octobre, c'est-à-dire sur 4 journées. Nous avons l'année dernière fait une tentative de mettre les épicuriennes durant le printemps, au mois de mai, tout simplement parce qu'avec la période Covid, effectivement, il y avait eu quelques difficultés à tout remettre en place. Nous revenons cette année à la saison automne avec le mois d'octobre, donc sur 4 journées, sur une amplitude un petit peu plus importante et qui permettra d'organiser des manifestations, de façon un petit peu plus conséquente.
Quel est l'objectif de cet événement ?
Alors l'objectif, eh bien, j'allais dire encore une fois, c'est de faire la promotion de tous ces plaisirs de la table, de la gastronomie, de partager des bons moments, de faire connaître les producteurs, le savoir-faire, d'associer les jeunes, les scolaires, d'organiser des expositions, des conférences, des concours autour bien sûr de la cuisine, puisque cette année le thème va être les sauces. Chaque année le thème change bien évidemment, et donc d'essayer de proposer un maximum d'animation et de susciter l'intérêt de tous pour tous ces aspects de notre belle gastronomie.
C'est quoi le patrimoine gastronomique de Belley ?
Alors le patrimoine gastronomique de Belley, waouh, ça c'est une question très très vaste. Il y a eu des très grands cuisiniers qui ont fait leur classe et qui ont œuvré sur Belley, des restaurants qui malheureusement n'existent plus maintenant, mais il y a ce patrimoine qui existe toujours, qui est toujours présent, et cette histoire qui existe toujours autour de la gastronomie belleysanne et des belles tables que l'on peut encore retrouver. On ne va pas citer de noms en particulier, mais il y a encore des bonnes tables dans notre budget.
En quoi les épicuriennes participent-elles au rayonnement de ce patrimoine ?
On a un patrimoine historique à Belley que vous connaissez, qui est très 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 important, très très riche. Et ce patrimoine qui est peut-être un petit peu haut de ce patrimoine qu'on va peut-être appeler patrimoine gastronomique, mais participe vraiment, je pense, au rayonnement de la ville, parce que, encore une fois, autour d'une table, il y a toute cette convivialité dont on a peu parlé encore, mais cette convivialité bugiste qui existe certainement dans d'autres régions, hein, mais on tient beaucoup également à cette thématique. Donc je pense qu'effectivement, ça fait partie du patrimoine belleysan, du patrimoine bugiste, de partager tous ces bons moments autour d'une bonne table.
Merci Daniel Poncy, vice-président de la commission culture, patrimoine et rayonnement de la ville de Belley.
Avec grand plaisir.
Merci Luna pour ce sujet et merci à ton invité Daniel Poncy. C'est la fin de notre émission Les secrets du patrimoine de Belley. On vous remercie de l'avoir écouté.
Retrouvez-nous sur le 90 FM et réécoutez tous nos podcasts sur radio-b.fr.
Bonne journée.
Les secrets du patrimoine de Belley.
Une émission qui vous invite à découvrir les richesses culturelles de cette ville.
Par les élèves de seconde du lycée du Bugey de Belley.